On est heureux de vous retrouver aujourd'hui. Puis dernièrement, je lisais un article, je tombais sur un article qui disait qu'un maquettiste français avait voulu se lancer un challenge. Il avait voulu battre le record du monde de la plus haute tour Eiffel faite en allumettes. Donc il se lance dans ce projet-là. Comme beaucoup, il veut marquer l'histoire, alors il se lance dans ce projet-là, puis il accomplit ce projet. Il a réussi à battre le record, 7 mètres 19 de haut. 7 mètres 19 de haut. Tout le monde est comme, ah, bravo, man, bravo, bravo, bravo. Bon, les gens sont plus impressionnés que vous ce matin, c'est pas grave. Impressionnant, 7 mètres 19. Sauf que plusieurs jours après, le célèbre Guinness Book, le livre des records, revient sur sa décision et a invalidé son record. Ils lui ont dit, le type d'allumette que tu as utilisé n'est pas conforme au règlement. Et là, j'entends votre réaction en mode « Oh, il devait être tellement déçu, le garçon. Tellement déçu. » Mais c'est pas tout. En lisant l'article, j'ai vu qu'il avait passé 8 ans de sa vie à construire cette tour Eiffel. 8 ans de sa vie pour se faire entendre dire « C'était pas les bonnes allumettes. » Cet homme a perdu 8 ans de sa vie de façon inutile. 8 ans de sa vie, sans le savoir, je perds mon temps, je ne le réalise pas. Je perds ma vie, mais je ne le réalise pas. Et j'étais frappé ce matin, en lisant cet article, en me disant combien de personnes aujourd'hui perdent leur temps pour des choses qui n'ont pas d'importance, pour des choses qui n'ont pas de valeur, sans le savoir. Combien ce matin même sont en train de passer à côté de leur vie sans s'en rendre compte pour des choses qui n'en valent même pas la peine. Aujourd'hui, dans notre société, on est les champions pour investir notre temps dans quelque chose qui ne compte pas vraiment. On est les champions pour ça, pour être trop occupés pour vivre pleinement la vie que Dieu aimerait qu'on vive. Puis les conséquences de ce style de vie où on est constamment occupé, constamment à courir après le temps, toujours à devoir faire des choses, accomplir des projets, c'est qu'on observe des statistiques qui sont effrayantes. J'ai entendu une docteure d'Harvard, graduée d'Harvard, qui disait dernièrement que 72% des gens vivent du stress aujourd'hui. 72%. 70% ont un symptôme qui est en lien avec le syndrome du burn-out. Il y a 2/3 des parents aujourd'hui qui sont en situation de burn-out. On voit un problème de santé mentale comme on l'a jamais vu dans l'histoire. On est la société dans l'histoire la plus stressée. Puis on va pas avoir le temps de couvrir toutes les raisons pour lesquelles on est stressé ce matin. Mais l'une des raisons qu'elle donnait aussi, c'est qu'elle disait que 60% des gens qui présentent un symptôme du burn-out, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à déconnecter leur travail. Ils n'arrivent pas à se déconnecter le cerveau. On vit dans une société où on est constamment connecté à plein de choses. On n'arrive pas à déconnecter du travail, on n'arrive pas à déconnecter des distractions, on n'arrive pas à déconnecter notre agenda qui est toujours surchargé. Puis je ne sais pas pour vous, mais moi des fois j'aimerais avoir des journées plus longues que 24 heures pour pouvoir faire tout ce que je dois faire. Avoir des journées plus longues, donne-moi un 30 heures par jour s'il te plaît Seigneur. 24 heures, c'est pas assez. 24 heures, c'est pas suffisant. Puis tout ce phénomène qu'on voit dans la société, je sais qu'on le retrouve ici aussi. On le retrouve ici aussi. Je me demande ce matin combien de personnes aussi sont frustrées par la vie qu'ils mènent. Sont frustrées, se sentent frustrées parce que tu te sens juste absorbé par un rythme de vie qui te dépasse, qui te fait couler. Combien aimeraient faire des choses, accomplir des choses, mais je n'ai pas le temps. Pas le temps pour ça. J'ai trop de travail, j'ai trop de responsabilités, j'ai trop de choses à gérer avec la maison, avec les enfants, j'ai trop de temps perdu sur Netflix, sur les réseaux sociaux, j'ai pas le temps, il y a trop de choses qui arrivent. Il n'y a que moi ce matin ou... Ok, c'est bon, je vois des têtes qui remuent timidement. Ouais, c'est bon, je parle de moi ce matin. Aujourd'hui, le titre de mon message est « Es-tu trop occupé pour ce qui compte ?» Puis ce message vient un peu rejoindre le message que j'ai fait il y a quelques semaines, le combat pour nos âmes. C'est pas vraiment une partie 2, mais il y a un petit lien quand même. Et honnêtement, ce message est pas évident à prêcher. Parce que ça me parle à moi-même. Parce que je suis le premier concerné là-dedans. Parce que ça me parle, d'abord, j'ai de la difficulté dans ce domaine à prendre le temps pour ce qui compte, à arrêter de perdre mon temps pour des choses qui sont inutiles. Et ce matin, peut-être que les choses qu'on va voir, ça te parle ce matin, mais peut-être que les choses qu'on va voir aujourd'hui, tu vas dire, il m'a manqué quelque chose. Et c'est correct parce que je ne vais pas m'en vouloir si tu penses ça, parce qu'on ne peut pas tout voir en 35 minutes, 40 minutes dans un message. Mais si tu sens que ça te concerne personnellement, que tu as un problème avec ça, que tu as envie d'aller plus loin, je veux juste te conseiller un livre, ce livre-là qui va apparaître à l'écran, The Ruthless Elimination of Hurry. Si tu sais lire l'anglais, ce livre-là est excellent. Ce livre nous apprend un petit peu à relâcher, à ralentir, à prendre notre temps pour ce qui compte. Mais si tu sens ce matin, en ce moment, que ta vie te glisse entre les doigts, que tu perds ta vie en ce moment, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un meilleur chemin aujourd'hui. Il y a un meilleur chemin pour toi à suivre aujourd'hui. Et c'est Jésus qui nous dit, en Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Puis en règle générale, quand on parle de ce verset-là, on s'arrête surtout au fait que Jésus, c'est la vérité. La vérité nous rend libres. La vérité nous affranchit. On parle qu'en Jésus, on peut avoir une nouvelle vie, une vie éternelle. Mais on parle rarement de ce que ça implique, le chemin. Oui, Jésus est le chemin vers le Père. Oui, Jésus est le chemin vers la résurrection. Mais il y a plus que ça. Jésus ne promet pas une vie éternelle pour plus tard. Mais il promet aussi une vie différente pour aujourd'hui. Une vie différente pour maintenant. Jésus nous enseigne un chemin différent à suivre. Une voie différente à suivre. Une façon de vivre totalement différente. Surtout, on en a besoin dans cette société où on est comme constamment « j'ai pas le temps, je suis pressé, je suis occupé ». Jésus nous montre un chemin sur lequel on peut être occupé tout en ayant le temps pour ce qui compte. Jésus nous enseigne qu'en suivant son chemin, on peut être occupé tout en ayant le temps pour ce qui compte. On s'est déjà arrêté plusieurs fois rapidement comme ça sur la vie de Jésus, mais je veux revenir là-dessus. Jésus avait un agenda ultra chargé, plus que le vôtre. Jésus a eu 3 ans, juste 3 ans, ok, pour former 12 gars sous-doués, incapable, mauvais, terrible, avec plein de défauts. Il a eu 3 ans pour former ses 12 bras cassés pour qu'il puisse un jour porter son message de la bonne nouvelle. 3 ans pour le faire, tout en étant soumis à plein de sortes de pressions, de tentations. Jésus, pendant 3 ans, il y avait des foules entières qui venaient constamment vers lui. Il n'avait quasiment aucun moment de repos. Et puis en voyant toute cette misère-là, Jésus en même temps devait faire attention à tous ceux qui voulaient le piéger. Il devait en même temps enseigner les promesses du royaume. Puis en même temps, il devait accomplir toutes les prophéties que l'Ancien Testament avait annoncées sur lui. 3 ans seulement pour le faire. Jésus avait un mandat chargé. Jésus était pressé de toutes parts. Jésus avait une mission énorme. Jésus était occupé, mais Jésus n'a jamais couru. Jésus n'a jamais couru. Jésus n'a jamais dit « j'ai pas le temps ». Jésus n'a jamais dit « je n'ai pas le temps ». Jésus n'a jamais dit « j'ai pas le temps de prier ». J'ai pas le temps de lire la parole. J'ai pas le temps de te réconforter. J'ai pas le temps de t'aider. J'ai pas le temps de t'appeler. J'ai pas le temps de te parler. Jésus n'a jamais dit « je n'ai pas le temps ». Puis quand on regarde juste même le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus, ça s'est passé pendant un mariage. Puis il faut savoir que les mariages, c'est pas comme aujourd'hui où en quelques heures, paf paf, c'est plié, soyez bénis, bon courage tous les deux, je rentre chez moi. Les mariages à l'époque, ça durait pendant des jours et des jours et des jours, ils faisaient le parter. Puis Jésus, Il n'est pas juste passé en coupe-vent en mode « Hey, félicitations à tous les deux, bisous, bye bye, j'ai un agenda chargé, faut que je m'en aille. » Jésus est resté dans le mariage. Il est resté pendant des jours pendant le mariage. Tellement que vers la fin du mariage, il manquait de vin et c'est là qu'il a accompli son premier miracle. Changer l'eau en vin. S'il avait été omnibulé par son agenda, le miracle n'aurait pas eu lieu. Puis plusieurs mois plus tard, dans une autre ville, on voit même un homme important pour la société qui vient voir Jésus, qui vient lui dire « Jésus, ma fille de 12 ans est en train de mourir, viens avec moi, viens vite, il faut aller la sauver. » Puis alors que Jésus suit cet homme, il y a toute une foule qui le presse, qui le touche de partout, il essaie de se frayer un chemin au milieu d'une foule qui le touche de partout. Et au milieu de cette foule-là, une dame malade depuis 12 ans qui voit Jésus passer, qui se dit « Si seulement je touchais un morceau de son vêtement, alors je serai guéri. » Puis alors qu'elle le touche, alors que toute la foule le touche, elle arrive à le toucher. Puis Jésus, la Bible nous dit qu'il sent une force sortir de lui. Il veut continuer sa route parce qu'il y a un objectif à voir. Non, il s'arrête. Qui m'a touché? Puis là, tout le monde est un peu en mode, hey, Jésus, tu niaises-tu là? Tout le monde te touche là actuellement. Non, non, quelqu'un m'a touché. Et Jésus, alors qu'il y a une urgence, Jésus prend le temps avec cette dame-là, brisée par la vie, brisée par ses maladies, brisée, humiliée, pas juste pour la guérir, mais il prend le temps pour la restaurer. Il appelle ma fille. Il l'a adoptée. Ma fille, relève-toi. T'es guérie. T'es guérie. Il a pris le temps pour cette dame. Il aurait pu lui dire, j'ai pas le temps pour toi, désolé, on se voit plus tard, appelle-moi, oublie pas. Non, non, je prends le temps pour toi. Puis après, il se remet en route. Et il se remet en route pour aller non plus guérir la jeune fille qui était malade parce qu'entre-temps, elle est décédée. Mais il se remet en route pour aller ressusciter cette fille. Jésus était constamment en marche, tranquillement. Il prenait le temps pour ce qui compte. Si vous lisez la vie de Jésus, vous arrêtez pas juste à ses enseignements, ne vous arrêtez pas juste à ses miracles. Oui, il est la vérité, ses enseignements sont vérité, ses miracles sont vie, mais regardez au chemin. Regardez à son exemple. Jésus était occupé, mais il savait comment être bien occupé. Il savait comment être occupé sans perdre son temps. Et c'est confrontant parce que nous, aujourd'hui, on ne sait plus être occupé de la bonne façon. On ne sait plus le faire, on ne sait plus comment le gérer. Dans une société où on est constamment occupé, pressé, préoccupé, distrait, avec un besoin constant de mouvement, on a toujours besoin d'être occupé, il y a toujours besoin de quelque chose à faire, quelque chose qu'on doit faire, quelque chose qu'on doit accomplir. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes assis sur une chaise en attendant un rendez-vous, qu'est-ce que vous faites? On sort le téléphone. Je ne peux pas rien faire, il faut que je fasse quelque chose. Quand vous faites l'épicerie, avouez comme moi que vous regardez la file qui avance le plus vite. Parce que je n'ai pas le temps, il faut que j'aille vite. Faut que ça aille vite. J'ai pas le temps d'attendre jusqu'à la dernière seconde dans le micro-ondes. Mon plat, il est prêt là. Une seconde, ça sert à rien. Je le sors tout de suite. Et alors, ma préférée, ce que je fais fréquemment, quand je vais aux toilettes, et je sais que j'en ai pour un moment, téléphone, email, Facebook, et mon temps se multiplie par 3 facilement. Et je sais qu'on est souvent, on est beaucoup à le faire. Parce qu'on est tous sous pression, on a tous des choses à faire, on doit tous rattraper le temps. On court constamment après le temps, on court constamment derrière le temps. Tout ça parce qu'on gère mal nos occupations. Je disais des statistiques qui sont effrayantes. On passe en moyenne 706 heures par an sur les réseaux sociaux. Ça représente 4 mois et demi par an. Je vois des gens qui se donnent des coups de coude en ce moment-là. 4 mois et demi. La télévision, c'est pas mieux, hein? 700 heures par an en moyenne. Puis c'est sans compter toutes les heures qu'on met dans le travail, parce qu'on est beaucoup à être addict au travail. On parle de différentes addictions, mais on parle rarement de l'addiction au travail. Il y en a qui sont addicts au travail, parce qu'on met notre identité dans le travail. On peut pas se passer du travail, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que je travaille, il faut que j'accomplisse quelque chose. Maintenant, attention, je ne dis pas que le travail, c'est mal. Je crois qu'on doit être des bons témoignages à nos jobs. On doit montrer l'exemple, on doit servir nos employeurs avec excellence comme si on servait Dieu. Mais aujourd'hui, le travail est devenu une part de notre identité, une part de notre accomplissement, une poursuite de vie. Il faut que je travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent, pour accomplir, pour faire, pour vivre, pour... Le travail, on est omnibulé par le travail. On passe des heures. Puis le soir, on a tellement été occupé dans la journée que qu'est-ce qu'on fait quand on rentre à la maison? On est sur nos téléphones. On rattrape les emails qu'on n'a pas eu le temps de traiter la journée. On rattrape les stories Facebook qu'on n'a pas eu le temps de regarder. On rattrape Occupation Double qu'on n'a pas eu le temps de regarder pendant la journée. On est constamment occupé, distrait, sous pression. Il y a une personne qui s'appelle Andrew Sullivan qui a écrit un jour « Cette nouvelle épidémie de distraction est la faiblesse spécifique de notre civilisation. » Et la menace ne pèse pas tant sur nos esprits, même s'ils changent de forme sous la pression, la menace pèse sur nos âmes. À ce rythme, si le bruit ne faiblit pas, nous pourrions même oublier que nous en avons une. Ich. Je pense que parfois, il faut oser. C'est pas quelque chose qu'on aime faire, mais il faut oser se dire, à la fin de ma vie, ça va être quoi le constat ? Quand je regarde en arrière, est-ce que je vais dire « J'ai manqué aucune série Star Wars sur Disney+. » Ça, je le reconnais, ça, c'est moi, là. J'en ai manqué aucune. Mauvaise, excellente, j'en ai manqué aucune. Wouh, waouh, quel accomplissement. Est-ce que toi, tu vas dire « Mais en regardant en arrière, moi, j'ai passé ma vie à faire un 60 heures, 65 heures, 70 heures semaine à ma job. C'est ça, ma vie. » Peut-être que toi, tu vas dire, moi, j'ai manqué aucun post de Taylor Swift sur Instagram. Aïe, premier à commenter, premier à regarder les stories, premier à écrire, premier à regarder les stories de mes amis, j'ai manqué aucun post. Ça va être quoi notre constat de notre vie vers la fin de notre vie, quand on va regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai accompli, qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'auteur du livre des Ecclésiastes qui se trouve dans la Bible. À un moment donné, on le voit, il travaille fort. Il décide, je vais travailler fort, plus que n'importe qui pour être le meilleur. Puis voilà la conclusion qu'il en a tirée après avoir travaillé fort pendant des années. Il dit au Ecclésiastes 2, verset 11, « Alors j'ai réfléchi à toutes mes activités et à tout le mal que je me suis donné pour le réaliser. Et voilà, tout cela ne sert à rien. » Autant courir après le vent. Les humains ne retirent aucun avantage de ce qu'ils font sous le soleil. Exactement comme le gars avec ses mauvaises allumettes, on perd notre temps à se concentrer sur des choses qui sont futiles et inutiles pour nos vies. Et peut-être que ce matin, tu es en train de te dire, « Ok, ça vient me shaker un petit peu là, mais tu n'as pas l'air d'avoir tort. Je suis d'accord avec toi. Comment on fait ? Comment on ralentit ? Comment on arrête tout ça? Comment on arrive à se concentrer? Comment arrêter de perdre notre temps pour des choses qui n'en valent pas la peine? Et ma réponse, elle est simple, aucune idée. Aucune idée. Parce que je lutte avec ça aussi. On lutte tous avec ça, même l'auteur de ce livre qui donne des bons conseils, quand on lit, on comprend que même lui, il lutte avec ça. On lutte tous. C'est un combat pour nos âmes, d'être constamment occupé. C'est la société dans laquelle on vit. On est constamment tiraillé, occupé, attaqué dans nos âmes. Mais je vais quand même vous donner une clé, vous rassurez-vous. Parce que je ne vais pas m'arrêter là. Bon dimanche, soyez bénis. Allez, à la semaine prochaine. Je crois qu'un des moyens pour s'en sortir, c'est qu'on regarde au chemin. C'est qu'on regarde vers le chemin. Qu'on regarde vers Jésus. Puis, ce que j'aime avec Jésus, c'est ses interactions qu'il a avec les gens. Toutes les interactions qu'il a avec les gens, elles sont incroyables. Et quand on regarde aux interactions qu'il avait avec les gens, on observe que quand des personnes venaient lui poser des questions, Jésus répondait rarement à la question. Jésus répondait par une autre question, Jésus répondait à côté de la plaque, des fois on a l'impression, mais il répondait rarement à la question. Mais c'est arrivé quelques fois, et je pense que si Jésus prend le temps vraiment de répondre pleinement à la question, c'est important qu'on s'arrête à cette réponse. Et voilà la question. Un homme vient voir Jésus, il lui dit « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et la réponse de Jésus, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Puis il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Et en lisant ce verset-là, je me suis demandé, et si la solution à la précipitation, à nos vies toujours occupées, surchargées, préoccupées, en action, et si la solution de tout ça, c'était l'amour? Puis là, il y en a qui sont en train de me regarder en mode, c'est pas c'est quoi la Saint-Valentin, pasteur, pour que tu dises cette conclusion-là? Ça commence comme un petit speech des films de Noël où est-ce qu'il y a un gars qui quitte sa grande ville pour aller rencontrer l'amour de sa vie. C'est comme, la solution, c'est l'amour. Et pourtant, et si la solution à nos vies toujours pressées, occupées, c'était l'amour? John Mark Comer justement écrit dans son livre, « L'amour est incompatible avec la précipitation. » Parce que donner du temps, c'est une preuve d'amour. Si je donne mon temps à Dieu, c'est une preuve d'amour. Si je prends du temps à prier, si je prends du temps à lire ma Bible, si je prends du temps à méditer, c'est une preuve d'amour que je lui donne. Prendre du temps avec nos enfants, prendre du temps avec notre femme, avec notre mari, avec nos collègues, nos amis, nos voisins, notre famille, c'est une preuve d'amour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on lit 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour, quel est le premier adjectif que Paul utilise quand il parle de l'amour? L'amour est patient. L'amour prend son temps. L'amour n'est pas pressé. L'amour, c'est être patient. Et si Jésus était aussi lent, si Jésus prenait autant de temps, si Jésus n'était pas pressé alors qu'il était occupé, c'est parce que Jésus aimait. Jésus était amour. Jésus aimait les autres. Si Jésus prenait autant de temps à prier vers son Père, à lire la parole, c'est parce qu'il aimait son Père. Si Jésus prenait autant de temps avec ceux qui l'entouraient, c'est parce qu'il aimait les gens, il les aimait profondément. Jésus nous montre que la solution à notre vie bien occupée, ce n'est pas avoir plus de temps, mais c'est avoir un cœur qui aime et qui sait prendre le temps. Je ne sais pas si tu le réalises, mais ton agenda est le reflet de ce qui se passe dans ton cœur. Ton agenda est le reflet de qui a la priorité dans ton cœur. Et ce n'est pas un changement d'agenda dont tu as besoin. C'est un changement de cœur. Tu as besoin que Jésus vienne changer ton cœur. Tu as besoin que Jésus vienne t'apprendre à aimer comme il a aimé. On doit apprendre à suivre Jésus à son rythme. À son rythme. Pas à notre rythme à nous, à son rythme, à lui. C'est pour ça que Jésus dit, hein, ce célèbre verset qu'on a déjà vu ensemble, c'est mon verset préféré, donc vous n'avez pas le choix, c'est votre verset préféré à vous aussi. En Matthieu 11, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du stress et de l'angoisse pour vos... » Non, pardon. « Et vous trouverez du repos. » Du repos. Dans cette vie pressée, occupée, où tout va vite, où tout est intense, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Puis peut-être que tu as la difficulté avec cette notion de c'est quoi un joug? Un joug, la photo va apparaître. Un joug, c'est à l'époque, c'était utilisé pour l'agriculture. On attachait deux bœufs ensemble et les deux pouvaient tirer beaucoup plus de charge que s'ils étaient tout seuls ou séparés. Mais ce qui est intéressant avec un joug, c'est que si l'un des deux va trop vite, ça ne marche plus. Il faut qu'ils aillent à la même vitesse, au même rythme. Si Jésus nous dit « Prends mon joug si tu veux du repos », ce n'est pas juste pour te mettre un poids supplémentaire sur tes épaules, pas pour te donner quelque chose de plus dans ton agenda surchargé. c'est pour que tu te mettes à son rythme. Que t'apprennes à aimer comme il a aimé. Lentement. Patiemment. Que tu prennes le temps pour ce qui compte. Frédéric Dale Brunner, qui est un spécialiste de l'évangile de Luc, j'ai pris une grande citation, mais elle en vaut la peine ce matin. Il dit « Un joug est un instrument de travail. » Ainsi, lorsque Jésus offre un joug, il offre ce dont nous pourrions penser que les travailleurs fatigués ont le moins besoin. Ils ont besoin d'un matelas ou de vacances, pas d'un joug. Alléluia! Mais Jésus se rend compte que le cadeau le plus reposant qu'il puisse offrir aux travailleurs fatigués, c'est une nouvelle façon de porter la vie. Une nouvelle façon de porter les responsabilités. Puis il continue en disant que le réalisme veut que la vie soit une succession de fardeaux. Nous ne pouvons pas nous en libérer. Ainsi, au lieu d'offrir un échappatoire, Jésus offre un équipement. Jésus veut que l'obéissance à son sermon sur la montagne, son joug, développe en nous un équilibre et une manière de porter la vie qui nous donnera plus de repos que la façon dont nous avons vécu. Si tu veux vivre une autre vie, si tu veux vivre une meilleure vie, si tu veux vivre une vie qui compte, investir dans ce qui compte, il faut que tu ailles au rythme de Jésus. Il faut que tu te mettes sous son joug. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le travail est mal. Dieu a créé le travail. Ça ne veut pas dire que les projets sont mal, c'est mauvais. Des fois, il y a des projets dans lesquels on se lance, ça demande du temps pendant une courte période, c'est des saisons. Il faut que ce soit notre vie, il faut que ce soit des saisons. Ça veut dire que Netflix, c'est mal non plus. Ça veut dire qu'être occupé, c'est mal. Ça veut dire ralentir son rythme pour prendre du temps dans ce qui compte, pour prendre le temps dans la présence de Dieu, pour prendre le temps à aimer les autres, pour prendre du temps à être avec les autres, pour prendre du temps à être avec tes enfants, avec ta famille, pour être avec l'Église aussi. Parce que les dimanches matin, des fois, on peut être tenté. Le pasteur a été long un matin. Moi, j'ai un repas à préparer. Mes enfants doivent faire leur job, leur travail. Ils ont des devoirs à faire. On reçoit ce midi, donc il faut vite se dépêcher. On doit vite partir. J'ai des mails à traiter. Donc, merci, bye bye, terminé. Alléluia, amen. Bonne semaine à tous. On s'en va. Non, prendre son temps, comme Jésus, pour connecter les uns avec les autres, pour apprendre à se connaître, pour donner l'amour comme Jésus a donné son amour. Prendre le temps. On doit vraiment laisser Jésus changer notre cœur afin d'aller à sa vitesse. Si on ne veut pas se retrouver à la fin de notre vie en se disant « Je suis passé à côté de tellement de personnes. » Il faut qu'on apprenne à laisser Jésus transformer nos cœurs si on ne veut pas se retrouver à la fin de notre vie en se disant « Je suis passé à côté de tellement de choses. » J'ai raté ce qui comptait. Je suis passé à côté de tellement de choses. Je n'ai pas mis la priorité au bon endroit. J'ai une amie à moi, parlant de ça justement, il y a quelques mois de ça, elle a appris qu'elle avait une énorme tumeur au niveau des poumons. Merci Seigneur, ça a été pris en charge, pris à temps, mais elle a dû subir une énorme opération, une grande opération, une grave opération, à cœur ouvert, on enlève sa cage thoracique pour enlever la tumeur sur ses poumons. Une lourde opération, et comme les grosses opérations, il y a un risque de mourir. Il y a un risque d'y rester là sur la table. Mais merci Seigneur, elle a été guérie, la tumeur a été enlevée, rémission, tout s'est bien passé. Mais après ça, elle nous a partagé que frôler la mort lui avait redonné un focus sur les choses importantes de la vie. Puis c'est intéressant parce qu'elle disait que le soir, avant son opération, la première chose qu'elle faisait le soir, comme nous tous, qu'est-ce qu'il faut faire à la maison ? Vaisselle, ménage, repassage, faire à manger. Les filles, faites vos devoirs. Plein de choses à faire parce qu'on est tous occupés, on a tous des choses à faire à la maison. Puis ça ne va pas se faire tout seul malheureusement. Mais aujourd'hui, maintenant, quand elle rentre à la maison, avant de se lancer dans toutes ces tâches qui sont importantes, les tâches ménagères sont importantes, messieurs, elle s'arrête, elle se dit, qu'est-ce qui compte maintenant? Qu'est-ce qui est le plus important maintenant? Puis elle reconnaît que plus fréquemment, pas tout le temps parce qu'il faut les faire, ces tâches ménagères, mais plus fréquemment, elle prend le temps d'aller jouer avec ses filles. Elle prend le temps d'abord de connecter avec ses filles, de sortir avec ses filles, de sortir avec ses amis, d'investir dans des choses qui en valent la peine. Puis à l'inverse de ça, À peu près dans la même période où Stamine nous avait raconté cette histoire-là, dans la même période, un ami nous avait partagé qu'il y a plusieurs années en arrière, il avait un travail avec responsabilité, énorme responsabilité. Travailler pendant des heures, 60, 65 heures, 70 heures semaine, de 8 heures du matin jusqu'à 9 heures le soir, constamment. Et normalement, comme toute personne constituée, le soir, quand il rentre, il est brûlé. Il est épuisé. Le problème de ça, c'est qu'un de ses fils vivait énormément de difficultés à l'école. Plein de pression, de moquerie, de jugement. Et alors que son fils était au fond du trou, lui, il a reconnu, j'étais pas capable de l'aider. J'étais brûlé. J'ai pas pu aider mon fils. Parce que j'étais brûlé. Puis on peut être choqué parce qu'on porte un manque. Quoi? C'est quoi ce père indigne? Mais combien de soirées est-ce qu'on perd devant la télé, devant les réseaux sociaux, au lieu de connecter avec ceux qui sont autour de nous? Même dernièrement, moi, je réalisais le nombre de fois où je peux jouer sur le sol avec Margot, je m'amuse, ha, 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 5 minutes, c'est marrant. Puis à un moment donné, je prends mon téléphone parce que, bah, bon, 5-10 minutes à jouer à la même musique, c'est un peu long. Et je prends mon téléphone, puis je me mets à scroller, puis plusieurs fois, je capte, ma fille me regarde en mode, qu'est-ce que tu fais? On joue. Reste avec moi. On perd notre temps pour ce qui compte. J'ai déjà cité cette citation de Corrie ten Boom qui disait « Si le diable ne peut pas vous rendre mauvais, il vous rendra simplement occupé. » Il faut qu'on change notre rythme de vie, il faut qu'on se mette au rythme de Jésus, sous le joug de Jésus. Aimer comme il a aimé, prendre le temps comme il a pris le temps. Si ce matin t'es anxieux, si t'es fatigué, si t'es proche peut-être du burn-out, peut-être que la solution pour toi, c'est de prendre le joug de Jésus et d'aller à son rythme, d'aller à sa vitesse, de prendre le temps pour ce qui compte, de le laisser transformer ton cœur. Et je sais, ce matin-là, je vous entends, j'entends certaines personnes dire « Ouais, mais hey, Jésus, c'était pas une mère célibataire qui devait gérer des enfants, 3 jobs en même temps pour payer les factures. Jésus, il n'y avait pas de crédit à rembourser. » Jésus n'avait pas Netflix. S'il y avait eu Netflix, il aurait capoté sa vie. Jésus, ok, il a peut-être été tenté par le diable pendant 40 jours, mais moi, mon boss, c'est le diable. Il est sur mon dos constamment. Jésus n'avait pas ça. C'est vrai. Mais Jésus avait une mission. 3 ans pour impacter le monde. 3 ans pour sauver le monde. 3 ans pour enseigner les promesses, les vérités du royaume de Dieu. 3 ans pour transformer le monde. Jésus était occupé. Si tu soupires après une meilleure vie, après un meilleur rythme de vie, il est en Jésus. Il est en Jésus. Jésus prenait le temps de prier tout le temps. Jésus prenait le temps dans la présence de son Père tout le temps. Jésus prenait le temps avec ceux qu'il aimait dès qu'il pouvait. Jésus prenait le temps pour ce qui était important sans négliger sa mission, sans négliger sa job. Parce qu'il savait qu'il faut aussi prendre le temps pour ceux qu'on aime. Jésus n'était pas pressé, car l'amour prend son temps. C'est John Ortberg qui a dit un jour, « La précipitation n'est pas seulement un emploi du temps désordonné. La précipitation, c'est un cœur désordonné. » Jésus ne doit pas te donner plus d'heures dans ton agenda. Jésus doit d'abord changer ton cœur. Et ce n'est pas à Jésus de suivre ton rythme. C'est à toi de suivre Jésus. Car il est le chemin. Le chemin vers le Père, le chemin vers la vie éternelle, mais aussi le chemin pour vivre une vie de repos tout en étant occupé, tout en étant pressé, tout en étant attaqué de toutes parts. Ça, c'est la promesse de Jésus. On est appelé à imiter Jésus, mais pour ça, il faut le laisser changer notre cœur, changer nos priorités, changer nos objectifs. changer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Il faut qu'on le laisse nous changer. Et il faut aussi le laisser changer, confronter notre style de vie. Peut-être que pour toi, ce message, ça voudra dire « Ok, je vais limiter mes réseaux sociaux maintenant. Je vais limiter mes jeux vidéo. Je vais limiter la télé. Je vais éteindre mon téléphone dès que je rentre du travail. Plus de notifications, plus d'emails à traiter. À partir d'une telle heure, je coupe tout. » Peut-être que pour d'autres, on sent en plus d'un jeûne et prière en mois de janvier, peut-être que pour toi, ça va être de continuer ce principe-là en mode une journée par semaine, un repas par semaine, si c'est trop une journée, un repas par semaine, je le consacre à Dieu. J'arrête tout et je me consacre à lui. Jeûne de réseaux sociaux, de bouffe, de quoi que ce soit, j'arrête tout pendant un moment dans ma semaine, un jeûne et prière dans ma semaine pour me mettre à son rythme, pour lui montrer à quel point je l'aime et à quel point j'ai besoin qu'il vienne changer mon cœur. Peut-être que pour d'autres, pour les couples, comme on l'a vu la semaine dernière, ça va être dire un soir par semaine, c'est juste ma femme et moi. C'est juste mon mari et moi. Les enfants couchés, télé éteinte, réseaux sociaux éteints, on est à table et on parle. Et on prend le temps d'investir, de s'aimer, de se donner. Peut-être que pour toi, ton travail, t'as l'habitude que tout aille vite, comme moi. Moi, j'ai toujours vite. Hein. Quand je suis au travail, je fonce, j'ai pas le temps. J'ai plein de choses dans la tête. Mais peut-être que si t'es comme moi, c'est peut-être le moment où, quand t'es à ta job, tu vois un bureau ouvert, t'arrêter et parler à ta collègue ou ton collègue. Et lui demander tout simplement, « Hey, ça va ? Je sais, j'ai des choses à faire là, mais je vais prendre le temps de connecter. Comment tu vas en ce moment ?» Connecter. Prendre le temps. Pour ce qui compte. Aimer comme Jésus a aimé. Tu ne la réalises peut-être pas, mais ton âme a besoin du repos de Jésus. Ton âme a besoin de son repos. Ton âme a besoin que tu suives son rythme. Jésus est le chemin, est un meilleur chemin pour toi, maintenant. Il est le meilleur chemin, la meilleure solution pour ta vie, maintenant. Pas quand tu seras mort, pas quand on sera dans les cieux éternellement avec lui, ça commence maintenant. C'est maintenant. La meilleure vie pour toi, elle commence maintenant. Jésus te lance un appel. Suis-moi. Alors que tout va vite, tout se dépêche, on se dépêche tous, on fonce, on court. Arrête. Suis-moi. Suis-moi. Donne-moi ton cœur. Ralentis. Donne-moi ton agenda. Je vais tout changer. Mais suis-moi. Suis-moi. Je vous invite à vous lever. On va conclure ce moment par un temps de prière. Je ne ferai pas d'appel ce matin parce que je crois que ce message nous parle à tous parce qu'on est tous occupés. J'ai jamais entendu quelqu'un me dire « j'ai le temps en ce moment, tout va bien ». Je crois que ce message nous concerne tous d'une certaine façon. Et chacun à votre place, je vous invite juste à incliner vos têtes puis à prendre un temps honnête, sincère, cœur à cœur avec Dieu, sans masque, sans rien du tout, et à poser les questions qu'il faut. Puis lui demander, Seigneur, est-ce que je mets la priorité au bon endroit en ce moment? Est-ce que mes priorités sont bonnes en ce moment? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je perds ma joie? Est-ce que je perds ma paix? Est-ce que je perds mon énergie pour des choses qui ne comptent pas? Est-ce que je vis des choses en ce moment? Est-ce que je suis stressé, débordé parce que je prends plus le temps? Je prends plus le temps d'aimer. Je prends plus le temps de t'aimer, toi. Est-ce que je donne une trop grosse place au travail? Est-ce que je donne une trop grosse place aux distractions? Est-ce que ceux qui m'entourent peuvent ressentir mon amour pour eux? Jésus, je te prie pour que tu puisses parler dès maintenant à des cœurs. Tu puisses parler dès maintenant, que tu puisses révéler l'imperfection de nos cœurs, l'imperfection de nos agendas, l'imperfection de nos priorités. Je te prie que tu puisses nous pardonner pour le temps que nous perdons. Pardon pour le manque de focus sur les choses qui sont importantes. Pardon de perdre le focus de nos familles, de nos amis, de l'Église, de toi-même. Pardon, Père. Aide-nous à ralentir le tourbillon de la vie qui nous entoure. Aide-nous à prendre ton joug et à marcher à ta vitesse. À combattre pour nos âmes à ta vitesse. Aide-nous à t'aimer, à prendre le temps pour te montrer à quel point on t'aime. Aide-nous à ralentir pour aimer ceux qui t'entourent, Jésus. Père, je prends aussi un moment pour prier pour ceux qui sont stressés ce matin, ceux qui sont proches du burn-out, de la brisure, qui sont constamment écrasés par une pression, qui ont l'esprit toujours occupé, préoccupé, angoissé, qui n'arrivent plus à respirer. Je te prie pour une guérison des âmes ce matin, pour une guérison des vies ce matin, pour que toutes ces personnes qui ressentent ça puissent apprendre à se mettre à tes côtés, à ta vitesse, proche de ton cœur, pour goûter au repos que tu nous promets, pour goûter à la paix que tu nous promets, pour goûter à cette tranquillité d'âme que tu nous donnes, Seigneur. Je te prie pour chacun qui porte ses fardeaux, qui n'arrive plus à s'en sortir. Père, tu ne nous as pas appelés à porter seuls nos fardeaux. Tu ne nous as pas appelés à porter ça tout seul. Alors ce matin, nous voulons prendre ce temps et répondre à ton invitation. En nous abandonnant, en venant à toi, viens réparer nos cœurs, viens réparer nos priorités, viens réparer nos agendas, viens réparer nos vies, nos âmes. Et comme le chant qu'on va prendre ce matin le dit, nous voulons courir vers toi, car tu es la solution, tu es le chemin, tu es tout ce qui compte. On veut prendre le temps, Jésus, pour toi. Alors qu'on entre dans ce moment de louange, on veut décharger nos fardeaux sur toi. On ne peut plus le porter, alors Jésus, prends les fardeaux, donne la paix, donne la joie, donne le repos, sans ton précieux nom Jésus que j'ai prié. Et que toute l'Église dise un dernier grand Amen. Et on va rentrer ensemble dans ce chant qui nous dit on court vers le Père, on court vers la source de notre paix, de notre joie.